Bonjour à tous. Aujourd'hui dans l'émission À chaque fois, c'est avec un grand plaisir que je reçois Bernard Montault. Bernard Montault est l'auteur de César l'éclaireur, mais également d'une quinzaine d'ouvrages. Il est surtout l'héritier spirituel de Gita Malas. Il est aussi fondateur de la psychologie nucléaire, un accompagnement du vivant, et fondateur de la psychanalyse corporelle, une technique d'investigation du passé qui permet de se réconcilier en profondeur avec son histoire. Aujourd'hui, il a accepté de répondre à mes questions sur le thème des différentes formes de foi, en particulier la foi spirituelle et la foi religieuse, en passant par le développement personnel. Bonjour, Monsieur Bernard Montault.
Bonjour.
Alors, ma première question, je voudrais parler du développement personnel, parce que sur les réseaux sociaux, j'ai été amenée à rencontrer tout un monde de développement personnel avec ces mots à la mode, beaucoup d'initiatives qui foisonnent, qui paraissent très bien. Mais c'est vrai que parfois, il y en a tant qu'on a l'impression un peu de s'y perdre. Et souvent, il me semble qu'il manque un enracinement dans une tradition, qu'elle soit spirituelle ou religieuse. Quelle est selon vous la différence entre le développement personnel et la spiritualité? Où s'arrête l'un et où commence l'autre?
Je crois que dans le développement personnel, il y a en même temps du bien et en même temps du mal. Le bien, c'est pourquoi l'homme ne serait-il pas capable de s'interroger sur le meilleur de lui-même en dehors de toute foi? La manière dont l'homme peut avoir envie d'être meilleur peut être indépendante de la question sur la foi. Et ça, c'est du développement personnel, c'est de la psychothérapie ou de la psychologie. J'ai envie d'être meilleur. Et puis, il y a effectivement une envie d'être meilleur qui peut être reliée à une foi spirituelle ou à une foi religieuse. Et dans ce cas-là, il faut effectivement une pratique spirituelle ou une pratique religieuse pour que l'envie d'être meilleur soit redoublée par la foi. Donc voilà, je crois que le développement personnel qui essaye de faire semblant d'être un chemin spirituel, c'est une erreur. Je crois que le développement personnel qui assume son besoin d'être meilleur sans avoir envie de foi, c'est une voie parmi tant d'autres.
D'accord. Alors, il y a certaines pratiques ancestrales qui sont encore en vigueur dans les peuples lointains, qui suscitent un véritable engouement, par exemple, entre autres, le chamanisme, et sont démocratisées, on va dire occidentalisées, et proposées comme un chemin de transformation. Est-ce par besoin d'exotisme, selon vous, ou cela correspond-il à une recherche de racines ancestrales dans notre humanité qui est en perte de sacré?
Je crois qu'en ce qui concerne votre question, il faut s'interroger sur le fait que les foies n'ont pas toutes le même âge. Le chamanisme, même le New Age, ce sont des foies qui ont besoin de supports extérieurs, qui ont besoin d'un certain extraordinaire, qui ont besoin parfois d'un peu de magie, qui ont besoin d'ingrédients supplémentaires au simple ordinaire pour croire au sacré, pour croire au magnifique. Il faut bien, par exemple, que l'enfant ait le droit de croire au Père Noël pour recevoir les cadeaux d'amour de la vie. Puis un jour, on découvre que le Père Noël n'existe pas. Je crois qu'il faut parfois, dans la foi, des expériences de maturité diverses, telles que le chamanisme, telles que le New Age, telles que le besoin de miracles, telles que le besoin d'extraordinaire, pour que l'homme se mette à croire en Dieu, il lui faut des maturités différentes. Aujourd'hui, en Occident, la foi a atteint un niveau où l'ordinaire peut suffire pour croire en Dieu, sans besoin de miracles, sans besoin de chamanisme, sans besoin de pouvoir extraordinaire. Mais il faut être tout à fait tolérant par rapport à toutes les fois plus jeunes dans leur nature. Je dirais, est-ce qu'un grand frère se moque de la foi de son petit frère? Pourtant, c'est vrai que pour le grand frère, la foi de son petit frère est un peu ridicule. Mais pour le petit frère, elle est nécessaire. Donc je crois que le chamanisme est nécessaire à certains, le New Age est nécessaire à certains, l'extraordinaire de pacotille est nécessaire à certains, et le sacré le plus ordinaire est nécessaire à certains. Il y a dans la foi tous les âges de la foi, et si on est un peu tolérant, il faut accepter tous les âges de la foi.
D'accord. Alors autre question sur dans les auteurs, dans le milieu du développement personnel, reviennent aujourd'hui beaucoup à la notion de mission de vie, que vous appelez tâche dans votre enseignement issu des dialogues avec l'ange. Ils ne parlent pas trop de techniques magiques d'un seul stage, mais sont assez réalistes sur le travail sur soi qui dure la vie entière. Qu'est-ce qui définit, selon votre enseignement, la tâche ou le service? Où s'arrête le service? Où commence la tâche? Et comment s'aperçoit-on qu'on est dans sa tâche? Ça fait beaucoup de questions.
Eh bien, il y a au moins 500 questions dans votre question.
Oui.
Parce que la tâche est un vaste sujet. C'était un des axes centraux de l'enseignement de Gita Malas. La notion que chaque être vient sur Terre avec une tâche à accomplir, comme une espèce d'identité secrète qui se réalisera dans cette tâche. D'autres traditions parlent de mission, parlent de légende personnelle, etc. Donc, il est important de comprendre que la tâche, ce n'est rien d'autre que ce qui fait qu'on consacrera toute sa vie à la misère d'autrui, ça c'est la tâche. Tant que notre service à autrui n'occupe qu'une partie de notre existence, c'est un service humanitaire, ça peut être extrêmement valable, extrêmement juste, mais ce n'est pas encore la tâche. La tâche, c'est donner sa vie à la souffrance des autres. Ce n'est pas donner une partie de sa vie à la souffrance des autres. L'action humanitaire consacre du temps à aider les autres, la tâche prend toute notre vie pour aider les autres.
Alors, que dites-vous de la fameuse pensée positive? J'ai parfois le sentiment qu'il masque une forme de déni derrière.
Alors, c'est évident que dans la vie spirituelle que j'ai fréquentée, c'est un concept complètement aberrant qui n'existe pas. Je veux dire que dans la plupart des vies spirituelles, pour découvrir notre grandeur, il faut être vainqueur de notre petitesse. Pour découvrir notre richesse, il faut être vainqueur de notre misère. Il n'y a donc pas accès à sa grandeur sans passer par sa petitesse aimée et pas assez accès à sa richesse sans passer par sa misère aimée. Il n'y a pas d'accession au positif sans passer par le négatif aimé. Et donc les voies positives qui prétendent nous faire aller directement vers un état de bien-être ne peuvent pas être justes puisqu'il nous faut passer par notre petitesse aimée pour rentrer dans notre grandeur. Et donc, les voies positives sont un contresens de toute voie possible spirituelle. Alors, il ne peut pas y avoir de lumière sans la victoire sur les ténèbres. Oui. La lumière qui ne procéderait pas de la victoire, qui ne serait pas issue de la victoire sur les ténèbres, serait une lumière qui n'a pas de goût. La grandeur qui ne serait pas issue d'une victoire sur notre petitesse serait une grandeur sans goût. Il n'y a pas de voie positive parce qu'il nous faut vaincre le négatif pour accéder au positif.
Alors, je voudrais aussi parler de la notion d'indépendance, qui est d'ailleurs centrale dans le message des dialogues. Et cette notion d'indépendance est très prisée dans un certain milieu aussi, du développement personnel, qui est un peu brandi, je dirais, comme une fierté. Je ne dépends de personne et j'en suis fière. Ou bien... Surtout, ne dépendez de personne et surtout pas de moi, je ne suis pas un gourou, etc. Donc cette notion qui peut être juste dans un contexte me paraît dans ce cas-là relever d'une grande peur derrière celle du lien et de l'intimité spirituelle. Qu'en pensez-vous et comment mieux percevoir cette notion d'indépendance?
Je crois qu'il y a une grande confusion et que je crois que quand on prétend que ni Dieu ni maître, c'est la forme la plus grande de liberté qui soit, c'est comme si on disait ni bras droit ni bras gauche pour embrasser. Il y a dans l'expérience amoureuse avec le maître ou dans l'expérience amoureuse avec Dieu une expérience de liberté possible de sa petite condition humaine. La liberté, c'est pas « je suis libre de changer de trottoir », c'est « je suis libre du passé du pire au meilleur de moi-même ». Je suis libre de ne pas demeurer enfermé dans mon système traumatique depuis la naissance. La liberté, ce n'est pas une liberté extérieure, c'est la liberté intérieure. Ni Dieu ni maître essayent de défendre une liberté extérieure. Je ne veux pas être soumis à Dieu ou être soumis à un maître. Je veux avoir le droit de manger ce que je veux, je veux avoir le droit de traverser le trottoir. Mais ça, c'est la liberté extérieure. Sans Dieu et sans maître, peut-être qu'on peut changer de trottoir, mais on ne change pas d'histoire, on ne change pas de petitesse, on ne change pas de misère. Même si on parvient à une certaine liberté extérieure, ni Dieu ni maître, ça ne conduit qu'à un enfermement intérieur. C'est-à-dire, il y a confusion entre l'indépendance extérieure et l'indépendance intérieure, entre la liberté extérieure et la liberté intérieure. Ni Dieu ni maître, ça conduit au pire emprisonnement que ce soit. Je suis condamné à demeurer dans mes souffrances permanentes.
T'as tout autre point de vue. Il y a une personne assez connue, Philippe Pozzo di Borgo, qui a inspiré le film Intouchable. Il trouve que c'est le mal de notre société de s'affirmer indépendant, car on est tous dépendants les uns des autres. Pour ma part, je pense qu'il faut d'abord avoir été dépendant de l'autre pour avoir accès à son indépendance, comme un besoin de projection nécessaire pour avoir envie de progresser. Et une personne qui, justement, m'accompagnait ces dernières années dans mon chemin me disait « Tant qu'on n'a pas su se faire accompagner soi-même, comment peut-on accompagner les autres ?» Et puis, il y a une autre indépendance. Vous insistez beaucoup, comme Gita le faisait, sur l'importance d'être indépendant par rapport à son ange. Pouvez-vous développer cela ?
Je crois que quand il s'agit d'être indépendant d'autrui, il s'agit d'être indépendant de nos histoires personnelles, c'est-à-dire quand je rencontre autrui, qu'est-ce qui m'agace chez autrui? C'est-à-dire sa petitesse, ce que je ne supporte pas de son histoire. Qu'est-ce que c'est être indépendant? C'est me mettre à rencontrer cette misère pour être libre qu'il continue d'être dans cette misère et que je continue d'être heureux. Ce qui nous rend dépendants, c'est on veut que les autres changent pour ne plus souffrir nous-mêmes. Et l'indépendance, c'est aimer la misère des autres pour qu'ils n'aient plus à changer pour nous plaire. Nous n'avons pas à exiger que les autres changent pour que nous, on soit mieux. Nous n'avons pas à exiger que les autres soient meilleurs pour que nous, on soit mieux. Ça crée notre dépendance aux autres, le fait que nous ne supportons pas leurs travers. Si nous nous mettons à découvrir que toutes les souffrances de l'autre, toutes les misères de l'autre ne sont que ses souffrances et qui réveillent en nous une certaine miséricorde, sans qu'il ait besoin de changer l'autre, nous sommes soudain mieux avec nous-mêmes et avec lui. Être indépendant, c'est être mieux avec l'histoire de l'autre et avec notre propre histoire.
Et en ce qui concerne l'indépendance par rapport à son ange?
Mais c'est la même chose, sauf que là, c'est pas par rapport à nos histoires, c'est « suis-je capable de considérer qu'il m'est toujours indiqué quelque chose à faire, que je suis libre de faire ou de ne pas faire ?» C'est moi qui décide de faire ou de ne pas faire ce que l'ange m'indique.
Et l'indépendance par rapport au maître, à quel endroit se joue-t-elle ?
C'est la même. C'est nous posons des questions pour que le maître nous guide dans notre vie, mais c'est moi qui décide d'appliquer telle ou telle direction que le maître m'a indiquée. Que ce soit l'ange ou que ce soit le maître, ce sont des poteaux indicateurs, mais c'est nous qui sommes dans la voiture, c'est nous qui conduisons. L'ange nous indique une direction, le maître nous indique une direction. Mais celui qui conduit la voiture est toujours libre de prendre la direction ou de prendre le sens contraire. Ça, c'est notre indépendance de conducteur, même si nous sommes conduits par l'ange et par le maître.
C'est pour cela que vous vous définissez souvent comme un poteau indicateur.
Voilà, moi, je ne suis qu'un poteau indicateur. Des gens viennent me rencontrer, me pose des questions, en mon âme et conscience, j'essaye de leur répondre, mais les gens sont libres, totalement libres, d'appliquer ou non la direction de mes réponses.
Alors je voudrais passer maintenant à la question religieuse, à la foi religieuse. Je suis personnellement très sensible aux faits religieux. En effet, moi je suis de tradition chrétienne et j'ai été amenée à redécouvrir ma foi il y a 15 ans. Et en même temps, à cette période, j'ai découvert le bouleversement des dialogues avec l'ange, lequel m'a confortée à me réconcilier avec ma foi religieuse. Pour autant, je n'ai pas trouvé à l'époque dans mon église quelque chose d'essentiel, un travail sur soi approfondi. Par exemple, je revenais de la messe et je me fâchais sur mes enfants, ça me faisait beaucoup souffrir. Et un accompagnement personnalisé que j'ai trouvé dans l'association que vous avez fondée. Depuis, je ne cesse de faire des allers-retours entre mes deux fois, foi spirituelle et foi religieuse, et aujourd'hui, je ne peux pas me passer l'une de l'autre. J'ai besoin des deux. Pour moi, elles ne s'opposent pas, mais elles se complètent. Quel lien y a-t-il pour vous entre ces deux formes de foi, et peuvent-elles se passer l'une de l'autre ?
Alors, il y a encore des milliers de questions dans votre question. Mais je crois qu'il faut comprendre une chose. La foi spirituelle, c'est la manière dont l'homme peut être capable de croire dans le meilleur de lui-même. C'est une foi, croire. Mais ce n'est pas croire en Dieu, c'est croire dans le meilleur de lui-même. Je peux être meilleur. Est-ce que je crois que je peux être meilleur? Ça, c'est la foi spirituelle. Et le but de la foi spirituelle, c'est la sagesse. Elle ne conduit pas au saint homme, elle conduit au sage. Par contre, la foi religieuse, c'est autre chose. Ce n'est pas le meilleur de moi-même, c'est quelle relation amoureuse je suis capable d'entretenir entre créature et créateur. Entre moi et Marie, moi et le Christ, moi et Dieu. Et il faut quand même en convenir, c'est une sacrée interrogation. Comment on aime le Christ ? Comment on aime Marie et comment on aime Dieu? Alors Dieu, je ne sais même pas comment on aime Dieu. Là, cette fois-ci, ce n'est pas le meilleur de l'homme. Cette fois-ci, il faut une foi religieuse, il faut des symboles, il faut des rites, il faut l'Eucharistie, il faut des choses et des prières pour nous convier à cette expérience amoureuse. On est donc d'un côté devant une foi spirituelle qui nous invite à aller vers la sagesse, et de l'autre côté, une foi religieuse qui nous invite à aller vers la sainteté. Ce ne sont pas les mêmes objectifs. Alors, c'est sûr, aujourd'hui, dans les chambres de nos enfants, les modèles d'humanité qu'on est en train de leur vendre, et c'est très grave, les idoles de l'adolescence d'aujourd'hui, c'est quoi? Des sportifs dopés et des chanteurs drogués? Aujourd'hui, dans les chambres de nos adolescents, il n'y a pas des saints hommes et des saintes femmes, et il n'y a pas des sages de toutes les traditions. Il devrait y avoir des sages du bouddhisme, des sages de la chrétienté, des sages des protestants, des sages des musulmans. Il devrait y avoir des saints bouddhistes, des saints, etc. On voit bien que l'espèce humaine est en perte de valeur, même ses idoles sont des idoles de tricherie, des idoles par la drogue ou des idoles par le dopage. Pourtant, le saint homme reste le but de la foi religieuse et le sage reste le but de la foi spirituelle. Mais il faut s'interroger sur une deuxième chose. Je crois que quand les prêtres avaient tout leur temps, il y a une cinquantaine d'années ou une centaine d'années, ils étaient en même temps ce directeur de conscience que les familles avaient toutes le dimanche. Le curé venait manger à la maison et il aidait les enfants, il aidait les jeunes couples, il aidait les vieux, il aidait un certain nombre de choses. Le curé, il n'y a pas très longtemps, était encore directeur de conscience, était encore maître spirituel. Il n'était pas seulement prêtre du dimanche. Et je pense que c'est parce que ils sont moins nombreux, ils ont beaucoup d'églises, qu'ils ont perdu ce premier rôle que les mouvements spirituels ont dû reprendre. C'est-à-dire, il a fallu que des écoles maternelles de la foi réintroduisent les gens dans la foi religieuse et que des écoles comme notre mouvement à nous accompagnent les gens dans le spirituel avant de les envoyer à la messe à nouveau.
Les dialogues avec l'ange s'adressent à toute personne, au-delà de toute religion. Et peut-être que c'est pour cela que certains points, certains aspects peuvent être mal compris ou source, par exemple, de divergence, de désaccord. Je pense notamment au point de la responsabilité de l'homme. En caricaturant, on pourrait dire que dans les dialogues, l'homme a le pouvoir d'aimer et de pardonner. Et que selon l'Église, en tout cas selon certaines personnes dans l'Église, le pardon se reçoit comme une grâce de Dieu. Pour moi, ces deux points de vue se rejoignent et ne s'opposent pas. Il me semble qu'il faut tenter par soi-même si on veut se rendre compte qu'on n'arrive pas toujours par ses propres moyens et qu'on a besoin de la foi en une dimension qui nous dépasse. Mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas tout attendre de Dieu sans rien tenter. Et moi, ça me fait penser au fameux dicton « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Sans quoi, on serait que des marionnettes. Quel est votre point de vue sur cette question de la responsabilité de l'homme ?
Je crois que c'est une éternelle querelle de catéchisme, une éternelle querelle de chrétiens contre ceci, de protestants contre cela, et que les guerres de religion ne sont jamais un signe d'une grande intelligence de l'espèce humaine. Je crois que le dicton « Aide-toi, le ciel t'aidera » indique bien la pédagogie des choses. Il faut d'abord commencer par s'aider soi-même, pour qu'ensuite il ne reste que l'endroit où Dieu seul peut nous aider qui va apparaître en seconde partie. Vous avez très bien souligné, c'est un peu trop facile de dire « j'ai rien à faire, puisque Dieu fait tout, j'ai pas besoin de me fatiguer dans la miséricorde, la miséricorde divine est obligatoire et elle seule suffit ». Ben, je crois, moi, qu'il y a deux moments, deux étapes dans la miséricorde. C'est, il faut d'abord être capable de se pardonner à soi-même ce qu'on peut se pardonner à soi-même, et ça, c'est issu de sa propre histoire. Est-ce que je suis capable de ne plus en vouloir au bourreau de mon histoire, que sont mes parents? Est-ce que je suis capable de dire comme le Christ sur la croix, mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mes propres parents, quand ils faisaient du mal à leurs propres enfants? Il y a une miséricorde qui m'encombre en tant que fils de mes parents. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est moi en tant qu'homme. Est-ce que je suis capable de vivre jusqu'à la fin de mes jours avec de l'amertume contre mes parents? Ou est-ce que je vais apaiser cette amertume au fond de mon cœur pour comprendre? Ils m'ont peut-être mal aimé, mais ils m'ont aimé. Ils ont essayé de m'aimer. Cette conquête de la paix envers ses propres parents, c'est d'abord un aide-toi toi-même. Es-tu capable de pardonner à tes parents le fait qu'ils t'aient pas forcément bien aimé, mais qu'ils t'ont aimé? Et puis ensuite, au-delà de cette miséricorde personnelle, il y a une miséricorde dont seule la foi religieuse est capable. Es-tu capable, maintenant que tu as pardonné à tes parents, de pardonner à toute l'espèce humaine, les misères permanentes de l'espèce humaine, les délits permanents de l'espèce humaine, le mal permanent que fait l'espèce humaine? Et là, c'est la prière. Et là, il faut la miséricorde de Dieu. Donc, je crois que votre question contient la réponse. C'est pas opposer les dialogues au reste de la foi chrétienne. C'est est-il possible que la miséricorde se fasse en deux temps? Un temps personnel, j'ai de la misère auquel je dois consacrer mon amour, et un temps religieux, un temps beaucoup plus élevé, où seule la misère de Dieu, où seule la miséricorde de Dieu, la miséricorde du Christ en moi va pouvoir agir. Ce sont seulement deux temps. Aide-toi et le ciel t'aidera. Deviens miséricordieux et le ciel sera miséricordieux ensuite.
Alors au final, que propose cet enseignement des dialogues avec l'ange que vous transmettez? Un chemin de développement personnel, un chemin spirituel ou les deux?
Je crois que ça propose toute une scolarité de la vie intérieure, de la même manière qu'il nous a fallu aller à l'école pour apprendre un métier, pour apprendre à être papa et maman, pour apprendre à une certaine réussite dans la vie. Je pense qu'un jour, l'espèce humaine comprendra qu'au milieu de la vie active, il faut retourner à l'école, l'école spirituelle, pour savoir comment passer du pire au meilleur de soi-même, pour savoir dans quelle tâche vais-je être obligé de vivre avec le meilleur de moi-même, et pour savoir comment vais-je avoir la force de retourner à l'église, prier d'une autre manière avec le Christ et avec la Vierge. Est-ce que les églises sont faites pour le pire de l'homme, ou est-ce que les églises ne seraient pas bien plus pleines si elles étaient réservées au meilleur de l'homme? Je pense que quand on prie depuis le meilleur de soi, il y a quelque chose qu'on convoque dans le Christ et dans Marie qui n'a rien à voir au fait quand on prie depuis le pire de soi. Qu'est-ce que notre enseignement? C'est ce qui essaye d'envoyer l'homme vers le meilleur de lui-même et ensuite de l'envoyer dans ses églises, ses temples et ses monastères.
Vous reprenez des termes et des concepts chrétiens, voire catholiques, et les développez selon l'angle de vue de la psychologie nucléaire. Est-ce par envie de vous réapproprier des termes poussiéreux et théoriques pour leur donner un nouveau goût, une nouvelle saveur, ou est-ce que c'est pour que chacun puisse se les approprier dans sa propre vie personnelle comme des expériences concrètes et accessibles à tous?
Mais vous savez, je crois que depuis 2000 ans, que c'est écrit dans les évangiles, depuis 2000 ans que les choses sont dites dans l'enseignement du Christ, il faut être vigilant à en même temps reproduire ce message et en même temps légèrement le décaler dans le vocabulaire pour qu'il soit réentendable avec un tout petit autre point de vue qui nous réouvre les oreilles. Je pense que ce n'est pas affronter les concepts que de moderniser leur compréhension. Nous n'avons pas la même maturité que les hommes d'il y a 2000 ans. Et la réalité des mots et la réalité des concepts ne s'adressent pas au même moment historique et ne s'adressent pas au même homme ou à la même femme qui écoute. Il y a 2000 ans, on était encore entre polythéisme et monothéisme. C'était extrêmement violent de dire « tu n'auras qu'un seul Dieu ». Aujourd'hui, quand nous disons « tu n'auras qu'un seul Dieu », c'est beaucoup moins violent que quand le polythéisme était à la porte de l'espèce humaine. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin des miracles, parce que déjà la modernité a créé plein de miracles. Nous sommes dans une maturité spirituelle et religieuse qui n'a rien à voir avec l'enfance de la foi des premiers siècles chrétiens. Et donc ce n'est pas rentrer en contradiction avec les religions que d'essayer de faire glisser les mots. Et si la tâche était une nouvelle terre promise pour chaque homme? Et si la miséricorde intérieure, le retournement intérieur était expérience d'une eucharistie personnelle? Ce n'est pas salir l'eucharistie de l'Église que de dire qu'il existe une eucharistie intérieure. C'est relancer cette eucharistie à l'intérieur de l'espèce humaine.
Avez-vous conscience que cela peut déranger les esprits les plus conservateurs?
Ah ben j'en ai plus que conscience, je l'entends, je le subis. Je pense qu'il faudra que... Je peux comprendre que ça peut choquer tout le monde. Je pense qu'il faut comprendre qu'un débat contradictoire est nécessaire partout. Que tant qu'il y a respect, tant qu'il y a tolérance, eh ben nous sommes dans la bonne voie. Quand nous rentrons dans l'irrespect et l'intolérance, nous rentrons dans les extrémistes qui aujourd'hui posent des bombes et créeront beaucoup de problèmes au monde entier et à la modernité. Ne soyons pas les nouveaux extrémistes de demain. Mais nous avons quand même le droit d'avoir des points de vue un peu différents sur tout un tas de choses.
Alors pourrait-on dire finalement que dans un chemin de travail sur soi, il y aurait trois étapes? C'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Une première étape qui est du développement personnel et qui serait pour développer les trois réussites de l'ego. Une deuxième étape pour apprendre à servir qui aurait besoin d'un chemin spirituel. Et une troisième étape pour aller vers sa tâche qui... elle réclamerait une foi religieuse en tant que don de soi.
Alors, je le dirais différemment. Je dirais, quelle que soit la voie empruntée, quelle que soit la religion empruntée, nous devrons tous passer par trois étapes. 1. La découverte de notre petitesse et de nos misères personnelles, comme un champ d'action, un champ d'amour. 2. Apprendre à aimer nos petitesses et nos misères, c'est le début de faire expérience de notre grandeur. 3. Découvrir sa tâche pour vivre le plus possible dans sa grandeur. Entre la découverte de cette petitesse, l'expérience d'amour pour sa petitesse et l'expérience de contrôler sa grandeur, il y a les trois étapes du chemin qui passent par la tâche, qui passent par le dialogue avec l'ange et qui passent par le désir d'être meilleur.
Alors, ma dernière question, pas forcément reliée d'ailleurs à la précédente, mais... Par rapport à la vie religieuse qui serait nécessaire à une certaine étape, est-ce pour autant que l'on ne peut pas avoir de vie religieuse avant d'avoir une tâche? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à prier tout comme le bébé commence à babiller, à émettre des sons avant d'apprendre à parler?
Mais bien sûr, on fait l'amour bien avant d'avoir des rapports sexuels. Il est bien normal que l'on prie bien avant d'avoir une tâche. La tâche, ce n'est qu'un épisode de maturité de la foi. Ce n'est pas la foi et ce n'est pas le seul moment de la vie religieuse. Être baptisé alors qu'on n'est encore jamais allé à la messe, c'est déjà être dans la famille chrétienne et c'est déjà de la foi. S'incliner devant le petit Jésus le soir devant la crèche à Noël, même si c'est une foi infantile, c'est déjà la foi bien avant la tâche. Je le répète, dans ce monde qui glisse petit à petit vers une intolérance intégriste, vers une intolérance extrémiste, et qui va créer beaucoup de problèmes, il nous faut nous retourner de l'autre côté, vers tout ce qui comprend toutes les religions, vers tout ce qui accueille tous les âges de la religion. Celui qui n'a pas de tâche et qui va à la messe tous les dimanches et qui s'applique à être meilleur, il est aussi respectable, il a une foi d'un âge qui n'est pas comparable avec celui qui donne sa vie dans un apostolat, mais qui est déjà une foi. Et donc, il faut que nous inventions des journées de la foi partagée différentes. Il faut que nous inventions le droit, comme des frères et sœurs, de supporter la foi des autres et de la comprendre, au lieu de sans arrêt la juger. Et donc, votre question est importante. Toutes les fois sont respectables, de la plus petite à la plus grande.
Merci beaucoup Bernard Bonteau pour ce beau message de tolérance que nous espérons que nous allons diffuser et que le plus de personnes possible puissent l'entendre.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir Bernard Bonteau, à bientôt.
Au revoir, merci beaucoup.